Pour Radio Campus Rennes, nous sommes en présence de Gabriel Cohn-Bendit, qui est connu aussi pour avoir été le fondateur du lycée expérimental qui existe toujours à Saint-Nazaire. Donc c'était en 1982. Vous l'avez quitté en 1987. Mais j'imagine que vous avez suivi un peu l'histoire de ce lycée. Est-ce que vous pouvez en faire une sorte de bilan entre le moment de sa création et aujourd'hui ?
Non, difficilement, parce que c'est vrai qu'après je suis parti vers tout à fait autre chose et que les rapports sont un peu distendus. Donc je ne sais pas où ça en est, mais ça n'a pas dû changer beaucoup. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez faire le bilan ?
Quand vous l'avez créé, vous aviez une intention. Est-ce que donc une intention de se rapprocher d'élèves qui étaient un peu qui sortaient du circuit scolaire ou qui avaient besoin d'un autre mode d'éducation, est-ce que ça marche entre guillemets?
Non, l'intention elle était double. C'est de mettre en cause le système tel qu'il est, de dire qu'on peut apprendre autrement, et pour avoir cette liberté de faire, on a dit on va s'intéresser aux élèves dont personne ne veut et qui ne veulent plus de l'école. Au moins, voilà, cela on nous laissait faire. Mais c'est pas un lycée, justement, dans le débat là, avec Aldo Nauri, il n'est pas fait pour des élèves en soi qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas... Il est fait pour tout le monde, mais on s'est intéressé à ceux qui ne voulaient plus aller à l'école et dont l'école ne voulait plus, parce qu'avec eux, on nous foutait la paix et on pouvait inventer ce qu'on voulait. Mais c'est pour nous généralisable, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un élève qui n'a pas réussi pour aller au lycée. Le lycée n'est pas fait pour élèves n'ayant pas réussi, il est fait pour tout le monde. Et c'est vrai que si on réussit avec des élèves qui n'ont pas réussi, il n'y a pas de raison de ne pas réussir avec d'autres. Mais c'est toute la conception du lycée, toutes les relations maître-élève, toutes les relations au savoir, toutes ces relations-là qu'on avait envie de changer. Et de ce point de vue-là, oui, on a réussi.
Alors, monsieur Cohn-Bendit, donc moi je suis Priscille Blas. Donc j'ai été au lycée expérimental il y a quelques années, j'avais 15 ans, donc là maintenant j'en ai 23, voilà, quelques années. Et en fait, j'ai été un peu jetée de mon collège, on va dire, et on m'a placée là-bas, dans ce lycée, alors que je n'avais pas encore terminé ma troisième. Voilà. Donc, je tiens à le signaler. J'ai été acceptée au lycée expérimental, donc ça a été pour moi une année de formation, puisqu'en... J'y étais, en fait, après cette année-là, je me suis réadaptée au système traditionnel, en fait. Et le terme lycée me dérange un petit peu. Et j'ai su qu'il y avait eu des débats, d'ailleurs, par rapport à ce terme-là. Comme quoi, on voulait remplacer le mot lycée par le mot centre. Puisque j'ai vu beaucoup... Enfin, je vous en prie, continuez.
Non, c'est pas... On voulait pas remplacer le terme de lycée. Au début... En fin de compte, c'est des discussions qu'on avait eues avec le recteur à la création et qui nous avait dit « Vous emmerdez pas avec le terme de lycée, on va vous emmerder avec le bac. » En disant « Un lycée, ça prépare au bac, point final. » Et vous, vous êtes quelque chose qui est beaucoup plus général que ça. Il y a une filière qui doit pouvoir passer le bac des élèves, s'ils en ont envie, s'ils en ont capacité, s'ils sont capables de s'adapter à cette chose horrible qui est la préparation du bac. Mais ça doit pas être un lieu... qui est destiné à faire des bacheliers. C'est une partie des élèves, il y a d'autres. D'où, au début, nous avons surtout parlé du centre expérimental. Et où des gens passaient, ils sortaient sans bac, mais en éduc. Il y avait tous les élèves, par exemple, il y a eu beaucoup d'enseignement artistique et des choses comme ça. À l'école des Beaux-Arts, il n'y avait pas besoin du bac, il fallait être niveau... terminal. Donc attendez, ils avaient des dossiers, ils pouvaient faire 20 heures de dessin, de sculpture par semaine, de tout ce qu'on voudra. Ils avaient des dossiers comme aucun élève, et ils ont été de très bons élèves des écoles, des Beaux-Arts à Nantes. Il y a eu une palanquée d'élèves, des écoles d'éducateurs, des écoles comme ça, où il n'y avait pas à l'époque forcément besoin du bac. Donc c'était un lieu de formation dont certains ont passé le bac, et d'autres, le plus de réussite, dans un sens, par rapport à cet examen, ça a été tous ceux qu'on a pu préparer, parce qu'ils avaient déjà un peu travaillé, les récurrents, il faut avoir travaillé 2 ans, qu'on a pu préparer aux examens spéciaux d'entrée à l'université, qui sont sur 3 matières et pas toutes les matières du bac. Hein. Et bon, bah, ça, c'est plus facile pour quelqu'un qui a de faire un devoir ou littéraire ou philosophique, un devoir d'histoire et un devoir de langue. Et voilà, et c'est l'histoire que je racontais de Jean-Luc qui est rentré, qui a passé l'examen spécial d'entrée à l'université en droit, qui a fait capacité et le concours de conseiller d'éducation, et après quelques années de conseiller d'éducation, le concours de chef d'établissement, et qui est chef d'établissement aujourd'hui, et qui n'a jamais été dans un lycée. Ouais, c'est marrant. Ouais. Non, c'est plus que marrant. C'est, voilà.
Donc vous en avez parlé lors du débat avec Aldo Nauri, on va dire des limites de l'éducation nationale en France, c'est-à-dire un système qui est inadapté à plusieurs, ceux qui traînent, eh ben, ils sont exclus, ceux qui y arrivent bien s'y ennuient. Pourquoi je pense qu'on l'a compris depuis bien des années maintenant, on découvre pas ça aujourd'hui. Pourquoi l'éducation nationale française n'arrive pas à surpasser ces problèmes et à réinventer une école, alors que on a des exemples d'autres écoles. Moi, je pense à l'école Rudolf Steiner. Il y en a quelques-unes en France, mais j'avais découvert en Allemagne. Enfin, des écoles où vraiment on s'épanouit en tant qu'élève. Pourquoi on n'arrive pas à créer ça en France?
Mais c'est très compliqué, hein, je veux dire. Il y a les pouvoirs publics, que ça n'intéresse pas, bon voilà, mais ils s'appuient sur une opinion qui est persuadée que l'école française c'est la meilleure du monde, y compris de parents de milieux dont les enfants sont défavorisés par rapport à cette école, là. Il y a le corps enseignant qui est persuadé que tout va très bien s'ils avaient un peu moins d'heures et un peu plus de salaire, bon voilà, qu'il y a des problèmes matériels et que le reste ça va bien. Une des trucs, c'est symbolique, c'est les notes. Quand, après 68, un ministre a essayé de remplacer les notes de 0 à 20 par ABCDE, pour dire, bon, c'est très bien, c'est assez bien, c'est passable, c'est insuffisant, c'est mauvais. Attendez, en quelques mois, les profs ont mis A+, A++, A-, A-, B+, on arrivait jusqu'à 25 comme ça. D'accord, c'était moins que de 0 à 20 avec l'écart de points où ça fait sur 100. Mais bon, les enseignants français ne voient pas comment ils pourraient ne pas. Alors, ils corrigent des tas de copies qui est un travail énorme et qui sert strictement à rien. Les gosses regardent pas les corrections, ils regardent la note. Si elle est mauvaise, oh, le bouffon, il m'a encore mis un 1. Et si elle est bonne, ouais, c'est bon. Mais, donc, c'est un travail totalement inutile. Les profs passent des heures. Je parle pas de ceux qui mettent des annotations méchantes et tout ça. Mais voilà, un devoir. Voilà, il y aurait le plan, il y aurait un paragraphe développé. Il prendrait quelques copies, on le ferait en classe. Mais là, il s'impose des devoirs terribles à corriger tous ses devoirs. Et alors que ça sert presque à rien. Voilà, mais c'est très difficile, je ne sais pas pourquoi. C'est toute une société qui est structurée autour de ce mythe de l'école. Et c'est un mythe fondateur. Et voilà, on se rend compte, pratiquement intouchable. Hein. Les attaques ont venir, les attaques ont beau venir. Les rapports PISA, bon, disons, ben non, c'est pas un rapport qui est valable, alors que des gens comme Baudelot ont fait des articles là-dessus et des bouquins, que c'est très bien fait sociologiquement, que c'est justifié. Bon, mais non, ça marche pas, je sais pas. C'est toute la société, pas seulement les méchants des pouvoirs publics, hein, ni les enseignants, ou voilà. Voilà, madame.
Une dernière question. Justement, concernant le problème de l'enseignement et de l'école et des notes, il faudrait revenir aux origines, en fait, de l'enseignement, aux origines du savoir, de la transmission. Savoir que la transmission, c'est pas rien. On enseigne une histoire, on enseigne un passé, l'histoire de la langue, une façon de parler. Enfin voilà, il faut savoir comment vous voyez la chose.
Ah, d'abord, on n'a jamais enseigné l'histoire à l'école. On enseigne un mythe historique pour faire des bons petits citoyens. Donc c'est toute une mythologie, hein, des Gaulois. Il y a un très bon livre qui vient de sortir, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, hein, que le journaliste du Nouvel Obs a fait, qui est très très bien. Donc c'est, on n'a jamais enseigné l'histoire, hein, on a enseigné un certain nombre de mythes qui font la cohésion française. C'est vrai que si on est originaire du Maghreb, c'est un peu plus dur de rentrer là-dedans. Et bon, ça c'est un. L'histoire de la langue, on l'enseigne pas vraiment non plus, mais bon, ça intéresse pas les gens. Je sais pas, mais c'est le savoir, il est alors à part, on peut dire des choses comme les maths, les trucs scientifiques, mais même les trucs scientifiques. Bon, il y a un Charpak, un prix Nobel, qui a fait tout un truc sur la main à la pâte. Bon, mes amis de l'école Freinet disent c'est ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire où tu pratiques la réflexion sur les sciences, où tu fais des petites expérimentations, tu réfléchis, tu fais des hypothèses, tu regardes si c'est juste ou pas. Aujourd'hui, on enseigne les sciences comme on enseigne le catéchisme. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pas du tout la science expérimentale, t'apprendre à faire des hypothèses, de voir si ça marche, si ça marche pas. On t'enseigne ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On te dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais attends... Tous on a l'expérience, c'est pas vrai, c'est le soleil qui se lève là et qui tourne. Alors comment on amène quelqu'un à dire mais non, hein, c'est pas le... Qu'est-ce... On lui dit mais non, c'est pas... On le lui dit, mais il n'y a rien qui est fait pour qu'il se rende compte. Voilà, c'est tout, tout est un enseignement purement... voilà, c'est comme ça. Donc on apprend, et on n'expérimente rien en science. En maths, pareil, on n'expérimente rien, on ne fait pas d'hypothèse, on regarde, on machine. Non, c'est vraiment notre système éducatif, c'est très un enseignement religieux. Et c'est pas pour rien, nos lycées, nos écoles viennent de l'enseignement catholique ici religieux. Le lycée napoléonien a codifié ça. Et voilà, et on ne peut pas y toucher. Et tout est fait pour faire un certain type d'élite, dont l'idéal, c'est de rentrer soit à Normale Sup, soit à Polytechnique. Et comme dit Jacquard, bon, alors maintenant, posons le problème de l'école polytechnique. L'école polytechnique a produit combien de prix Nobel en France ? Hein, ce summum ? Un. Alors que l'école polytechnique de Zurich, où on rentre, c'est comme ça, on a produit 27. Qui n'est pas le concours. Donc on a à se poser le problème de cet enseignement élitiste d'un certain type où on est bon à faire vite des calculs. J'ai un copain qui les concours aux grandes écoles, c'était comment faire le plus vite possible un calcul pour en faire le plus. Mais on fait vite des calculs. Aujourd'hui, il y a des petites machines qui font ça encore plus vite. Pourquoi se servir comme ça de notre tête pour faire simplement des calculs et pas réfléchir, faire des hypothèses. Voilà, bon, donc, en fin de compte, il n'y a aucune expérimentation à l'école. On ne leur montre pas comment on peut faire des recherches dans tel et tel domaine pour savoir des choses, comprendre. Par exemple, ce que j'ai expliqué sur le suicide, de faire un suicide au Moyen-Âge, au Japon, qu'est-ce que c'était société, comment par rapport à la mort on a des conceptions différentes, le droit ou pas le droit. Hein, Bon voilà, ça c'est intéressant, ça c'est là, les jeunes font des recherches, mais l'école c'est pas fait pour faire des recherches, hein. Le prof baratine, on note, on apprend, et on redégueule. Bon. Selon qu'on digère plus ou moins bien et facilement. Bon. Voilà, et je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas changer, mais ça, c'est... moi, j'ai tenté, j'ai essayé avec d'autres, et bon, je n'y arrive pas. C'est... Voilà, ça ne bouge pas.
Pas une petite note d'espoir, quand même ?
Ah ben, si, je veux dire, rien n'est définitif, ça dépend si des gens se mettent à se bagarrer là-dessus, mais je ne sais pas quel déclenchement il faudrait pour qu'il y ait cette... voilà, pour que ça démarre. Hein, parce qu'on a essayé, alors c'est vrai, 81 a été un facteur déclenchant, en gros, ils arrivaient au pouvoir, ils n'avaient pas tellement d'idées, hein, comme toujours, quand la gauche arrive au pouvoir. On leur a soumis des idées. Bon, ils ont pris. Hein, et Sabari était un type très très bien. C'est vrai qu'on a eu de la chance que là. Mais voilà, puis après, ça s'est refermé.
Eh bien, merci Gabriel Cohn-Bendit. Et j'espère que les générations qui viennent vont réussir à améliorer cette éducation nationale. Merci.
Je leur souhaite de tout cœur.